savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Marcello, come here. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
C'est un film sorti en janvier dernier en France, mais qui a marqué durablement l'année de son empreinte, de son entrain. La La Land de Damien Chazelle a remporté 6 Oscars, dont ceux de meilleur réalisateur et meilleure actrice pour Emma Stone. Ce film musical tourné à Los Angeles boosterait même l'industrie touristique dans la mégalopole en attirant des milliers de Français avides d'aller sur les pas des héros Mia et Sébastien, la serveuse au café des studios Warner, apprentie actrice, et le pianiste de jazz. À l'occasion de la sortie de La La Land, nous nous étions demandé si le film allait revitaliser la comédie musicale. Quelles sont d'ailleurs les sources de ce genre, la comédie musicale, les ressorts, les enjeux? Autant de questions, autant de raisons de consacrer une émission spéciale à la comédie musicale en compagnie de nos deux invités. Sylvie Chalaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Paris 3. Vous enseignez justement le décryptage des codes de la comédie musicale et vous avez dirigé un ouvrage sur la question « Comédie musicale, les jeux du désir » publié aux Presses universitaires de Rennes en 2008. Stéphane Lerouge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la musique au cinéma. Vous dirigez la collection Écoutez le cinéma chez Universal Music Jazz France. Et vous venez d'ailleurs de publier un coffret exceptionnel consacré à Quincy Jones. Et puis évidemment, vous avez participé à l'écriture des mémoires de Michel Legrand.
J'adorais le cinéma de Hollywood des années 30, 40, 50, surtout les comédies musicales, mais aussi le cinéma de Jacques Demy, qui était une sorte de réponse, je pense, française au cinéma américain, au cinéma Hollywood. Mais le plus important pour moi, c'était de moderniser quelque chose de vieux. C'est-à-dire qu'on parle des comédies musicales traditionnelles comme si c'était old-fashioned aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même un genre où il y a beaucoup de vie, beaucoup de choses à apprendre. Et je voulais prendre ces exemples du genre assez ancien afin de dire quelque chose sur le présent, sur aujourd'hui, de raconter une histoire moderne, contemporaine.
Voilà Damien Chazelle qui parle de son projet dans La La Land. Damien Chazelle, il a 31 ans, c'est un surdoué, hein, on l'avait déjà repéré avec son film précédent Whiplash, hein, dans lequel il racontait son expérience aussi d'apprenti batteur. Mais enfin, c'était un film très très dur, hein, de relation maître-élève. La La Land, c'est une comédie musicale. Alors Sylvie Chalaï, Stéphane Lerouge, je vais vous demander si vous pensez qu'il a raison. Est-ce qu'il modernise le genre? Je sais pas qui veut commencer.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question d'avoir raison ou pas. Ce qui est sûr, c'est que il a une connaissance de la comédie musicale américaine et aussi évidemment celle de Jacques Demy, mais il a une vraie connaissance depuis le musical des années 30 jusqu'à West Side Story par exemple, hein, bien sûr, mais surtout il travaille sur un phénomène de variation. Je dirais que il reprend des scènes, on reconnaît énormément de scènes, on aura l'occasion, je parle, d'en parler. Énormément de scènes, donc de Tous en scène, par exemple de Minelli ou Un Américain à Paris. Il y a vraiment un fil conducteur lié à Un Américain à Paris, ou Film également, à l'ouverture du film. Et il travaille sur des variations, c'est-à-dire qu'il joue à reprendre des éléments, mais comme en musique, à tricoter autrement, à retravailler, à remettre en scène autrement ces éléments à la fois musicaux et scéniques. Et du coup, il crée effectivement un sentiment de reconnaissance chez le public connaisseur éventuellement de la comédie musicale, mais en même temps, ceux qui n'ont pas forcément une référence en la matière ont aussi de quoi rêver. Mais en même temps, ça n'est pas une comédie musicale à la Guimauve dont on pourrait s'attendre finalement à trouver des effets romantiques. C'est au contraire tendu, très tendu.
D'ailleurs, c'est ça qui m'a moi le plus frappé, c'est la comme le côté un peu dragé au poivre des films de Demy, c'est-à-dire quelque chose un enrobage parfois un peu sucré, des couleurs vives et puis grande amertume, mais notamment dans la résolution dramatique, dramaturgique du film, il y a quelque chose qui est presque proche des Parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire des personnages qui ont tous les deux, qui sont deux rêveurs, ils ont deux formes d'idéaux, d'ailleurs qui ne correspondent pas parce que lui il adore le jazz, elle ne comprend rien à la culture, elle n'a pas la culture de cette musique-là. Ils vont voilà, se rencontrer à un moment donné, et puis il va y avoir une forme un peu de distance et d'érosion du temps et des sentiments, et puis avoir cette fin.
Avec, qu'on ne dira pas. Qu'on ne dira pas, pas,
évidemment. Mais je n'ai jamais dit, jamais dévoilé une fin de votre émission.
Mais c'est vrai qu'on pourrait voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, parce que moi je me souviens d'avoir vu le film à Toronto et la salle rugissait de plaisir. Enfin, c'est vrai qu'il y a un grand plaisir, vous lisiez, hein, Sylvie Chalaï, à voir ce film. Et dans le même temps, alors on peut dire que c'est la renaissance de la comédie musicale, ce qui serait vrai, mais on peut dire aussi c'est un film sur la mort du cinéma. C'est un film très mélancolique, très tragique. C'est un film qui parle de sacrifice. On peut le voir des deux côtés.
C'est vrai, oui. Et avec en même temps un début qui est aussi euphorisant que l'arrivée des forains dans Les Demoiselles de Rochefort, comme ça, sur le pont transbordeur, avoir comme ça un embouteillage qui est un moment à temps mort, à temps vide, et qui devient un moment de festif, de joie, comme ça, dans Los Angeles, bien sûr.
Parce qu'il faut le dire, le début effectivement de La La Land, c'est cet embouteillage et les gens qui sortent de voiture et qui se mettent à chanter et à danser. Alors on parlait des sources d'inspiration de Damien Chazelle. Est-ce qu'on peut dire que la comédie musicale c'est un genre aussi vieux que le cinéma parlant?
Ah oui.
Sylvie Chalaï, est-ce que le comédie musicale est lié avec, est née avec?
La comédie musicale est vraiment née effectivement avec le parlant, puisque les premiers films musicaux sont des films des années 29. Hein, donc on est, c'est des images qui sont censées capter finalement le théâtre de Broadway. Les premières sont d'ailleurs annoncées sur le plan publicitaire. On annonce film parlant, chantant, dansant, jusqu'au moment où dans les années très vite, hein, dans les années 30, début des années 30, il y a un essoufflement. Et du coup, on va essayer de trouver d'autres moyens. C'est notamment la Warner qui engage Busby Barclay pour essayer de créer des comédies musicales avec des images qui seront beaucoup plus sophistiquées, des effets finalement, des effets géométriques, toutes sortes de jeux particulièrement amusant, un peu d'ailleurs inspiré de Méliès, on pourrait le dire, qui propose finalement une autre vision complètement onirique, fantasmagorique avec les procédés du cinéma, puisque Busby Barclay va créer toutes sortes d'effets caméra avec des travelling, des poursuites, filmer finalement la scène sur des aplombs impossibles, alors que avant on était sur des choses très très sages en termes de captation, on captait la scène.
Bugsy Barclay, le chorégraphe notamment de 42e rue.
Say I know a bundle of humanity, she's about so high, and I'm nearly driven to insanity when she passes by. She's a snooty little cutie, she's been so hard to kiss. I'll try to overcome her vanity, and then I'll get a hard
kiss. Un extrait de 42e rue, hein, un film de 1933 signé Lloyd Bacon et Daryl Zanuck. Vous en parliez, Bugsy Barclay, c'est le chorégraphe, hein, appelé pour donc régler ses numéros très très plastiques. Est-ce qu'il invente les codes qui sont encore opérants aujourd'hui?
Oui, on peut vraiment dire cela. Par exemple, dans le film de Chazelle, l'ouverture même renvoie à 42e rue. Alors évidemment, on est dans des embouteillages sur des autoroutes,
des situations très modernes, on va dire.
Voilà, hein, donc des échangeurs d'autoroutes. D'ailleurs, c'est vraiment important d'ailleurs cette idée de l'échangeur. Et pourtant, on parlait de 42e rue. Dans 42e rue, il y a cette descente du plateau de scène pour aller danser sur, finalement, une voiture. L'ouverture, c'est ça. C'est en fait Ginger Rogers, je crois, qui danse. Et elle fait des claquettes, un numéro de claquettes. Et tout d'un coup, il y a un effet et elle descend et on s'aperçoit que c'est le toit d'une voiture. Et puis, il y a des encombrements avec des voitures, des chevaux. Enfin, on est dans les années 30. C'est déjà un jeu qui sera celui de la comédie musicale. C'est-à-dire de faire en sorte que le spectateur ne sente pas le passage du monde acceptable de la danse vers le monde réel. Tout d'un coup, la danseuse sur la scène se met à danser dans la rue. Et tout le monde danse dans la rue.
Et du coup, ça passe.
Et ça passe. Et dans La La Land, c'est ça. Tout le monde sort de sa voiture et se met à danser.
Dès la première séquence.
Une question à tous les deux. Est-ce que du coup, le rapport de la comédie musicale, de ces films musicaux, face à la crise, est-ce que c'est quand même le film musical, c'est un film movie par excellence, un film qui doit donner la bonne humeur, né avec la crise? Il y a un rapport très net et du coup le film, enfin je sais pas si ça a un rapport aussi avec La La Land maintenant.
Je sais pas, j'ai toujours eu le sentiment que en tout cas dans cette période-là, c'est aussi même aux États-Unis, c'est comme le cinéma français sous l'occupation, c'est une espèce de bouffée d'aller vers des mondes parallèles, des mondes artificiels, un monde imaginaire qui permet d'échapper, comment dire, aux contraintes, aux astreintes de la vie quotidienne en période de crise.
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la comédie musicale, aimer la comédie musicale pendant longtemps, c'est pas très très bien vu. Parce que c'est comme si c'était l'opium du peuple, enfin, c'est comme si c'était un moyen de s'évader dans le rêve.
Il y a un effet compensatoire, hein, certainement. Donc ces films des années 30 offrent un rêve qu'on n'a pas dans la réalité. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, d'après-guerre, hein, en France, on a considéré vraiment le cinéma musical américain comme de la guimauve, comme du cinéma qui était beaucoup trop conte de fées et qui ne permettait pas de regarder la réalité en face. En même temps, c'est un cinéma aussi qui est plein d'autodérision. Et qui est capable de, notamment celui de Minelli par exemple, ou de Stanley Donen, de montrer que nous avons besoin de ce rêve, et en même temps, on n'est pas complètement inféodé à ce rêve, puisqu'on le fabrique nous-mêmes, et que ça fait partie peut-être de la force de l'art. Enfin, un film comme Le Pirate de Minelli, ça parle de ça, c'est comment on a besoin de pirates qui vous fassent croire à une certaine réalité, mais qu'en fait on le demande, on en a besoin.
Ouais. Pardon, mais je pense quand même que justement, vous citez Minelli ou Donen, ou même, je sais pas, George Sidney, sont comme des cinéastes qui ont été considérés comme, enfin, Minelli a toujours été considéré comme un auteur et quelqu'un qui a toujours été, dont le travail a été défendu et reconnu à sa juste valeur. Et Chantons sous la pluie, genre, j'avais juste regardé la critique à l'époque, ou peut-être que sur la sortie en France, il y avait pas de critique négative sur le film. Tout le monde reconnaissait quasiment d'emblée son statut de film quasiment parfait, quoi. Vraiment, sur lequel il n'y a rien à enlever, rien à retrancher. Le film absolument, mais idéal à tous les niveaux.
Mais par contre, ce qu'on sent aujourd'hui, Stéphane Le Rouge, c'est qu'il y a un vrai retour de la comédie musicale. On l'a bien vu, par exemple, avec des films comme Lionel Bayer, qui est un jeune auteur suisse, et qui fait un film sur la guerre, sur la révolution des œillets, avec Valérie Donzelli. Ça s'appelle Les Grandes Ondes à l'Ouest. C'est un film absolument réaliste, et tout à coup, on voit Valérie Donzelli qui se met à danser. Puis on a vu aussi des films sur des ouvrières dans des usines, des documentaires très sociaux, et tout à coup on les faisait chanter et danser. J'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus, mais comment les jeunes cinéastes font des films très réalistes, profondément sociaux, mais en mettant des touches de comédie musicale, c'était une façon de réenchanter le cinéma.
En tout cas en France, je peux me tromper, mais je me souviens que avoir eu senti la césure vraiment quand Ducastel et Martineau ont fait Jeanne et le garçon formidable, qui est une sorte de brèche dans laquelle ensuite sont engouffrés notamment les cinéastes que vous citez, et puis évidemment
Christophe Honoré.
Je me souviens aussi du jour où c'était pas une comédie musicale, mais où Pascal Ferrand, sur un film de télévision, je crois pour Arte, qui s'appelle L'âge des possibles, a voulu utiliser le générique, la musique de Podane en générique de fin. Et là, je me suis dit, il y a maintenant l'arrivée au cinéma d'une nouvelle génération de metteurs en scène et qui sont des enfants à la fois de Minelli, de Donen, mais aussi forcément de Demi Legrand et aussi en partie de Demi Colombier, puisque il y a ce film qui est Une chambre en ville, qui n'est pas vraiment à proprement parler une comédie musicale, mais plutôt un drame musical, et qui est le film le plus social de Demi, et qui finalement, grâce aussi à la restauration entreprise il y a quelques années par Rosalie Varda, Mathieu Demi et Agnès Varda, film qui était un peu redécouvert par une nouvelle génération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive maintenant à ces cinéastes-là, et qui arrivent à faire des films qui sont a priori parfois assez réalistes dans le propos, et le temps d'une séquence, brusquement, le chant, la danse s'y engouffrent, et hop, et on fait un tout petit pas, un pas de côté.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
un extrait de Tous en scène, The Band Vagrant, en version originale, le film de Vincente Minnelli avec Fred Astaire et Sid Charis. On est en 1953, un an après le triomphe de Chantons sous la pluie. Là encore, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans La La Land, le film met en scène des artistes. Donc dans Tous en scène, c'est Fred Astaire qui est un acteur sur le retour, qui compte sur une comédie musicale à Broadway pour se remettre en scène, mais en fait une comédie musicale mise en scène par un tragédien avec une danseuse classique, c'est l'échec assuré, jusqu'à ce que lui reprenne les choses en main. Les comédies musicales, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, Sylvie Chalaille, elles jouent avec la mise en abîme du milieu du spectacle. C'est plus commode justement pour expliquer le passage de la réalité à l'illusion la plus totale ?
Oui, bien sûr, il y a un effet d'intoxication, je dirais, dans la comédie musicale. Il est nécessaire à un moment donné de mettre le spectateur en situation d'accepter complètement la dimension irréelle, impensable, donc de la danse ou du chant, de la musique dans l'espace ordinaire ou réel. Et ce qui est amusant dans Tous en scène, c'est que, évidemment, tant que les deux héros sont sur le plateau pour danser, ça se passe très mal. Donc Sid Charis et Fred Astaire ne parviennent pas à s'entendre sur le plan de leur caractère, mais aussi par la danse, ils ne parviennent pas à danser ensemble. D'ailleurs, il y a aussi la différence d'âge, la différence de notoriété. Et puis, dans Dance in the Dark, donc ils font une petite sortie le soir, et voilà que c'est dans le parc qu'ils vont danser, et finalement ce parc va être la révélation de cette espèce de petit nid de bulle extraordinaire dans laquelle ils vont se révéler l'un à l'autre. Aucun sexe, même pas véritablement de baiser, rien, mais on comprend. On a la même scène exactement dans La La Land. C'est ce moment où ils sortent de la fête et ils vont danser sur les hauteurs de Los Angeles. Mmh. On a tous les éléments, le lampadaire, le banc, la vision lointaine de Los Angeles, alors que c'était évidemment New York qu'on voyait Manhattan. Il y a une vraie variation et un plaisaire à se rappeler ce moment.
Ouais, et puis la touffeur mauve du ciel, avec un camailleux de mauve, comme ça, magnifique. Ouais. Mais moi, je pense aussi à un film qui, je sais, Sophie, est l'un de vos films de chevet, qui est Trois places pour le 26, Jacques Demy, qui est aussi l'histoire d'un spectacle qui se monte, Yves Montand, qui joue son propre rôle, qui joue le rôle d'un Yves Montand de fiction et qui revient dans sa ville natale à Marseille pour monter un spectacle qui va raconter l'histoire de sa vie et film curieusement dans lequel le film démarre sur l'arrivée, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'Yves Montand sur la gare de Marseille
avec escaliers immenses,
avec les escaliers de la gare Saint-Charles et une chorégraphie de journaliste qui fait une conférence de presse. On se dit tiens, c'est bizarre, c'est étrange parce qu'a priori ce qui est du spectacle va être chanté et dansé, mais là c'est du quotidien, c'est de la vie. Pourtant c'est chanté, c'est dansé, et plus le film va avancer, plus ensuite tout ce qui est musical va se concentrer sur les numéros musicaux du spectacle. C'est qu'on fait un parcours dans l'autre sens, ce qui est assez curieux dans ce film, qui est le dernier film de un peu le Chant du Cygne de Jacques Demy.
La comédie musicale, en fait, c'est cette tentation de l'art total. Évidemment, visuel, presque pictural, hein, le jeu sur les couleurs dans La La Land, mais évidemment, Demy, Minnelli, c'est évident. La musique, la danse. C'est ça l'ambition ultime.
Oui, d'arriver à coudre ensemble des arts qui sont pourtant éventuellement dans le télescopage ou la friction. Il y a une chose forte qui est dite à un moment, il me semble, qui est presque un peu emblématique pour le film La La Land, c'est la façon dont il est question du jazz. Le héros essaie d'expliquer à Mia ce qu'est le jazz et il est passionné et il lui dit c'est l'art du conflit et l'art du compromis. Donc de cette rencontre-là, de cette rencontre de l'impossible, et pourtant on parvient à quelque chose. Et finalement, il y a cette dimension-là dans la comédie musicale, elle est complètement marquée par l'esprit de jazz, effectivement. La pensée même de cette association de la danse, du chant, du jeu, de la musique, va dans le sens de ce travail de télescopage et en même temps tendre à l'harmonie malgré tout.
Tous les cinémas du monde, c'est l'heure de l'entracte. Vous pouvez nous retrouver sur internet, sur la page de l'émission www.rfi.fr ou sur l'application pour smartphone Pure Radio. Juste après le flash, nous continuerons notre exploration de la comédie musicale en compagnie de Sylvie Chalaille et Stéphane Lerouge.
Après, qu'est-ce qui se passe alors ?
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bienvenue dans cette seconde partie de Tous les cinémas du monde, suite de la rediffusion de notre émission spéciale consacrée aux comédies musicales. Nous évoquons avec Stéphane Lerouge et Sylvie Chalaille La La Land de Damien Chazelle. Le film se situe dans le Los Angeles d'aujourd'hui, racontant l'histoire d'amour contrarié entre un pianiste de jazz, Ryan Gosling, et une comédienne, Emma Stone.
J'étais un jeune artiste à Los Angeles il y a quelques années quand j'ai commencé à écrire le scénario. Et donc le scénario pour moi c'était plutôt mon histoire, ça parlait d'arriver à Los Angeles avec des rêves et tout de suite on se rend compte que parfois les rêves ne marchent pas et parfois c'est une ville de rêves mais c'est aussi une ville de rêves brisés et de cœurs brisés et une ville plein de déçus et de regrets et donc il y a tout un côté mélancolique et aussi d'exprimer cette tension entre la comédie musicale où on attend plutôt la joie, l'espoir, cette tension entre le genre et la réalité.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright.
Voilà, Ryan Gosling et Emma Stone qui chantent City of Stars, la ville des étoiles, bande originale de La La Land. Donc un film qui se passe à Los Angeles. Alors si New York ou Paris ont souvent servi de décor dans les comédies musicales, Los Angeles, je m'adresse à vos lumières, Sylvie Chalaille et Stéphane Lerouge, c'est assez novateur ou...
Par rapport à sa situation sociale. Et elle, de même, elle a, au début du film, elle vit dans colocation. Elle a trois colocataires, etc. Et elle part d'ailleurs en groupe, ensemble, à des parties pour essayer de décrocher un rôle avec toujours ce rêve, comme ça,
de percer.
D'ailleurs, ils utilisent le mot social climbers, comme ça,
des grimpeurs sociaux.
Et voilà. J'ai trouvé ça aussi vraiment réussi entre des moments vraiment où il y a le lyrisme qui naît forcément. Ben, vous parlez de l'observatoire, mais aussi que par ailleurs, voilà, c'est aussi un versant d'Hollywood, comme ça, certains quartiers qui ne sont pas forcément... c'est pas uniquement Bel Air, Beverly Hills.
Oui, c'est ça, c'est le côté un peu cinéma indépendant américain du film, avec toute sa noirceur, son réalisme. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est le moment où elle se met à rire.
Oui.
Et c'est vrai que ça, probablement, dans une vraie comédie musicale de l'âge d'or, une comédie musicale classique, enfin, cette petite scorie dans le chant, on l'aurait peut-être pas eu.
Oui, c'est aussi parce que ce ne sont pas deux chanteurs professionnels.
Alors, c'est la question que je voulais vous poser, justement.
On sait même que sur des grands comédiens et danseurs et chanteurs de l'âge d'or, on sait que Gene Kelly, par exemple, qui avait une toute petite tessiture, avait deux choristes, qui l'un pour les aigus et l'autre pour les graves, et qui le doublaient comme ça, de façon invisible. Bon, là, eux, ils chantent vraiment tout d'un bout à l'autre, et Chazelle raconte dans une interview que j'ai lue il y a une semaine que justement la difficulté pour son camarade et son double musical, donc qui s'appelle Justin Horvitz, qui avait déjà mis en musique ses deux premiers longs métrages, il a dû vraiment écrire en tenant compte des possibilités vocales d'Emma Stone et de Gosling. Ce qui, voilà, donc il y a cette technique là et que les imperfections, on disait bon voilà, on va essayer de les éviter, mais s'il reste des imperfections à l'arrivée, malgré tout, comme ce petit rire, par exemple, qui tombe un peu comme ça, presque en mesure, on le garde malgré tout dans la musique.
Oui, apparemment, on appelle ça des triples menaces, en fait. Triple threat.
Ah oui.
Les acteurs, oui, c'est-à-dire les acteurs qui savent à la fois chanter, danser et jouer.
Oui. Ah.
Parce que, par exemple, Ginger Rogers, c'était une très très bonne actrice,
oui.
mais c'était pas la meilleure danseuse possible. Alors, ceux qui...
Esther Williams, je trouve finalement meilleure nageuse que comédienne. C'est un exemple pris au hasard.
Mais justement, est-ce que vous... C'est quand même étonnant, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, la triple menace. Ça n'existe plus, des acteurs qui savent jouer, chanter et danser.
Ah, je cherche des contre-exemples, désespérément.
Mais par exemple, Ryan Gosling, vous le voyez comment, comme danseur? Plutôt Gene Kelly ou plutôt Fred Astaire? Plutôt athlète ou plutôt dandy?
Il me semble que le projet du film, c'est précisément de nous montrer que il y a chez tout le monde un désir de danse, un désir peut-être de chant. Et du coup, c'est ce qui rend ces personnages si proches de nous. Il se trouve que Gosling a eu lui aussi une histoire de jeune star. Enfin, vous savez, les bébés danseurs. Mmh. Oui, il a une histoire comme ça. Et c'est aussi quelque chose, je pense, d'important de travailler cette dimension-là. Et c'est peut-être cette actualité-là ou cette modernité-là dont parle Chazelle quand il dit qu'il veut faire un film d'aujourd'hui. Parce que on n'est plus dans la réussite du film bien léché, où rien ne déborde, où tout est parfait. On voit bien qu'il y a quelque chose de très réaliste. Et c'est ce télescopage, en fait, entre une réalité et puis le rêve. Le film parle vraiment de ça. Comme il y a télescopage entre des formes artistiques diverses, mais presque les deux personnages sont d'une certaine manière, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi comment on va faire coexister notre rêve avec la matérialité, la nécessité de survivre, le fait de gagner de l'argent, qu'on peut bien rêver à devenir comédien, mais il faut quand même aussi gagner de l'argent à côté. Je pense que c'est ça qui fait que ça touche autant les gens aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans une comédie musicale parfaite et bien léchée.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Hop, hop, poudre, yadadou, dadadou, nées sous le signe des Gémeaux.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi, fa, sol, la, mi, ré, mi, fa, sol, sol, ré, do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi, fa, sol, la, mi, ré, mi, fa, sol, 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 ré, do.
Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou.
Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe.
Voilà, les sœurs jumelles des demoiselles de Rochefort, et puis précédées d'un extrait des sessions de travail de Jacques Demy et Michel Legrand, des sessions que vous aviez d'ailleurs retrouvées, Stéphane Lerouge, hein, qui figurent dans l'intégrale Michel Legrand, Jacques Demy, le coffret de CD que vous aviez publié. Alors, c'est une session qui illustre bien tout des tâtonnements avant d'arriver à
ce jaillissement
incroyable, mais c'est pas toujours évident, ce qui montre aussi l'importance du travail symbiotique entre réalisateur et compositeur.
C'est vrai.
Parce que, contrairement à ce qui se passe d'habitude pour la composition de musique de film, là, c'est la musique qui précède.
Bien sûr. D'abord, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que quand je vous vois toutes les deux, j'ai l'impression d'avoir un remake des Demoiselles de Rochefort en live.
Mais tout ça est très étudié.
J'espère. Non, il y a une différence avec La La Land, c'est que Demy était l'auteur absolu de tous ces films, sauf sur des films de commande comme Lady Oscar, mais disons qu'il était metteur en scène, scénariste, adaptateur, dialoguiste et parolier des chansons. Ce que n'est pas Chazelle. Il y a un binôme dont j'ai oublié le nom qui a de parolier, lyriciste, qui a écrit les paroles de La La Land sur les indications du scénario de Chazelle. Mais il a abandonné comme cette partie-là de son film, et donc son compositeur, Justin Horvitz, a travaillé avec ces paroliers-là. Donc il est juste un petit palier supplémentaire qu'il n'a pas franchi comme Demy le franchissait. Et ce qui est très troublant, je trouve, notamment quand on avait quand je vais retrouver ces maquettes, sciences de travail dans les archives d'Agnès Varda, car c'était elle qui les avait conservées. Et c'est déjà le cas aujourd'hui pour La La Land. On a l'impression que les chansons du film, elles ont tout de suite existé telles quelles. On peut pas imaginer que avant d'arriver à ce que nous, on sait être le point d'arrivée, il y a tout un parcours de création, comme ça, en montagne russe, avec des périodes d'excitation, des doutes, des incertitudes. Et c'est assez troublant parce que, en tout cas, précisément dans le cas de Le Grand et Demi, Le Grand fait sur certaines chansons, donc sur le texte écrit par Demi, il lui fait, je sais pas, 20 propositions. Et Demi, sur certains personnages, notamment Michel Piccoli dans Les Demoiselles, Simon Dame, il lui dit oui, mais c'est très beau, mais c'est trop lyrique, parce que le personnage, sa définition, c'est qu'il est verrouillé de l'intérieur. C'est un personnage un peu gris, couleur muraille. Il lui sort, et au fur et à mesure, comme ça, on voit tout le parcours et on se rapproche vraiment de ce que nous, on pense. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'envisager que ces chansons-là ont existé à un moment donné sur une autre forme. Et ça aurait pu être autre chose. D'ailleurs, Demi aurait pu flasher ou se dire, voilà, je veux que ce soit ça. Et c'est très curieux, parce que Le Grand a été invité par Chazelle à voir La La Land en décembre. En fait, Chazelle, je crois, fait une liste des grandes figures du cinéma français qui l'admirent. Donc, il y a eu trois monstres sacrés qui l'ont rencontré, qui étaient donc Le Grand, Agnès Varda et Claude Lelouch. Voilà, donc ils se sont retrouvés devant Chazelle, qui était là avec Horvitz et qui était tout ému comme ça de leur parler de leur film, etc. Et Le Grand m'a raconté, il m'a dit Le Grand, voilà, effectivement, mais vos films avec Demi étaient une réponse très française aux comédies musicales hollywoodiennes, et moi j'ai voulu faire une réponse à votre propre réponse. Et donc Le Grand a été très ému parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un petit prodige de la mise en scène et dont la vocation était née en partie de ses films, puisque Chazelle s'est mis à lui chanter des passages entiers des Parapluies de Cherbourg. Là, je pense qu'il est vraiment, Le Grand est tombé de sa chaise.
Parce que là, on passait Les Demoiselles, mais effectivement, la référence demi-esque, si je puis dire, de Demi dans La La Land, c'est plus les Parapluies de Cherbourg, cette histoire d'amour un peu mélancolique, même si nous ne dirons pas la fin, donc vous aurez une idée de vous-même. J'aimerais qu'on continue sur la musique, parce que la musique de La La Land, c'est vraiment le jazz. Une question à tous les deux, le jazz, c'est vraiment la musique de la comédie musicale par excellence, enfin la musique du genre comédie musicale.
C'est pas tant que ça soit la musique du genre, que l'esprit du jazz qui alimente, qui nourrit de l'intérieur l'esprit de la comédie musicale. Tout simplement parce que cette idée de faire naître la musique des images, de faire naître la musique de bruit qui peut à peu créer des embrayeurs en quelque sorte, qui vont effectivement aller vers la composition musicale, cela appartient vraiment à la façon d'aborder la musique quand on est jazzman. L'idée aussi de la variation, le fait de travailler sur des formes, des standards, de citer à l'intérieur des films, d'autres films. Cet esprit-là est aussi un esprit très jazz, en fait. Et on retrouve ça dans la comédie musicale et tout particulièrement dans La La Land, là, pour le coup, dans une espèce d'échange, de pont constamment aussi entre... On vient de parler de la présence de Demi, mais il y a vraiment un pont Amérique... France, enfin Paris et Los Angeles dans ce film-là, qui peut permettre de jouer aussi sur une espèce de retournement d'un Américain à Paris. C'est une espèce de renversement de l'histoire d'un Américain à Paris.
Michel Legrand m'a dit que lors de sa rencontre avec Chazelle, il a pu parler de ce point précis qui est passionnant autant pour un cinéaste que pour un compositeur, c'est-à-dire d'enregistrer des musiques, de passer en studio, de faire chanter, soit des chanteurs, soit les comédiens, mais avant même que la caméra ait commencé à tourner. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit encore moteur, mais que déjà il y a une partie du film qui préexiste au tournage, et surtout à partir du moment où le metteur en scène donc a sa musique en boîte, il sait déjà, il peut commencer à rêver à une mise en scène virtuelle. Il sait que là, voilà, parfois même au moment de l'écriture, il peut dire, Chazelle disait à Horvitz, là je pense qu'il faut que tu prolonges avec juste un petit pont, allez, fais-moi 8 mesures, juste instrumentales, le temps que je finisse complètement mon travelling. Et voilà, et ça c'est formidable, parce qu'il y a déjà quelque part, il y a une partie de la mise en scène qui est déjà contenue une fois la musique pensée, conçue et enregistrée et mixée.
On parlait du jazz, je pensais évidemment aux comédies des deux âges d'or de Hollywood, et là c'est logique que ce soit la musique jazz, puisque c'était la musique de l'époque. Après les années 60-70, on a le sentiment que le genre, même s'il est encore représenté, il est moins présent. Du coup, c'est quand même plus, enfin, ça existe, mais c'est quand même plus rare, les comédies musicales rock. D'ailleurs, on parle d'opéra rock. Je sais pas s'il y a une différence. Ou même, je ne sais pas si ça existe une comédie musicale électro.
Non, mais le jazz, plutôt les jazz, notamment le swing, parce qu'après, il y a pas de comédie musicale bebop, par exemple. Mais ça, regardez, La Fièvre du samedi soir, c'est une comédie musicale disco.
Disco, c'est vrai.
Voilà.
Un exemple par genre musical. Il y a 8 Mile pour le rap.
Oui. Il y en a eu d'autres dans les années 80. Regardez sur la variété pop des années 80, regardez ce qu'ont été par exemple, je sais pas, Flashdance ou Footloose, enfin il y en a à chaque fois qui se calent sur l'évolution du langage de la musique populaire. You can't win, you can't be given, and you can't get out of the game. People keep saying things are gonna change, but they look just like they're staying the same. You can't win, child.
Can't win, child.
You can't be given. You can't get out of the game. Un extrait de The Wiz, un film de 1978 signé Sidney Lumet avec Diana Ross dans le rôle de Dorothy, Michael Jackson dans celui de l'épouvantail, puisque en fait c'est une relecture du Magicien d'Oz,
oui.
Stéphane Lerouge. Il y a d'ailleurs un des titres qui figure sur le coffret Quincy Jones que vous venez de sortir chez Universal.
C'est vrai. Curieusement, j'espère ne pas faire de provocation en disant ça, mais je n'ai pas complètement l'impression que c'est le film le plus personnel de Sidney Lumet.
Mais c'est étonnant. Sidney Lumet, qui est quand même un des grands réalisateurs de films noirs, de films de polar, de films de gangsters.
Psychologie, oui. En fait, c'est un jeu de poupées russes assez défenestrant, quand même, parce que c'est quand même une adaptation scénique, donc à Broadway, du Magicien d'Oz. Adaptation qui s'appelle The Wiz, et c'est le cinéma qui, par effet boomerang, se réapproprie le succès de Broadway, donc en demandant à Lumet, ce qui est un choix assez, disons,
audacieux,
pour ne pas dire incongru. Et Lumet, effectivement, se retrouve à piloter ce projet avec notamment Diana Ross en vedette, beaucoup de chanteurs de l'écurie Motown, de ce label soul américain, et le jeune Michael Jackson.
Donc en fait, c'est un peu un coup marketing, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Oui. Mais c'est-à-dire que c'est le Magicien d'Oz repeint aux couleurs de la musique disco, avec aucune musique, aucune chanson issue du film original, ce qu'on oublie Over the Rainbow. Et en revanche, donc les chansons originales, et c'est Quincy Jones, effectivement, qui est un vieux copain de Lumet. Lumet lui avait fait faire 5 ou 6 films. Lumet avait été même son père de cinéma, et Quincy Jones lui dit, il faut absolument que tu viennes faire la supervision musicale et m'écrire 2 chansons originales pour le film, dont une chanson chantée par Diana Ross. Et donc, Quincy Jones va un peu y aller vraiment en traînant les pieds, en se disant, oh, pas envie d'y aller. Lumet lui dit, écoute, je t'ai donné ta chance, faut que tu me renvoies l'ascenseur. Voilà. Et c'est là où Quincy Jones a rencontré Michael Jackson. C'est-à-dire que s'il avait refusé de faire The Wiz, il serait passé quasiment à côté de son destin.
Exactement comme dans La La Land, où Mia joue une pièce devant personne.
Oui.
Mais pourtant, c'est là qu'elle va rencontrer la productrice série qu'elle va faire ensuite à Paris. C'est ça, elle enregistre à Paris.
Elle tourne à Paris.
On ne le voit pas, tout ça. Hein, c'est toute une part du film qu'on ne voit pas. Mais
ce qui est intéressant avec The Wiz aussi, Sylvie Chalaï, parce que ça rejoint un autre de vos sujets d'études, qui est la représentation des Afro-Américains ou des Noirs dans le cinéma, c'est que finalement, alors on parlait de musique jazz, mais les personnages de couleur dans les comédie musicale, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas dans les âges d'or. Mm-hmm. The Wiz, comme vous le disiez, Stéphane, avec des chanteurs Motown.
C'est vrai. Il y a eu les Lina Horne quand même à une époque, il y en a quelques-uns.
Il y a des. Alors, c'est-à-dire qu'il y a souvent des hommages qui sont faits donc aux artistes noirs qui ont porté effectivement la musique jazz au plus haut point, et puis les claquettes, bien entendu. Donc on voit apparaître Bill Robinson, par exemple, aux côtés de Shirley Temple, mais la vedette, c'est Shirley Temple en réalité.
Dorothy Dandridge, quand même.
Dorothy Dandridge, oui, bien sûr. Mais il y a une présence qui est souvent dans l'ombre, d'une certaine manière, avec ces effets d'hommage par moment. Bon, chez Minnelli, c'est très très net, hein. Par exemple, on parlait hors antenne tout à l'heure de chocolat, mais il se trouve effectivement que dans un film de Minnelli, on a un hommage qui est rendu donc à chocolat. C'est dans Un Américain à Paris, ou à la fin d'Un Américain à Paris, au moment où il y a le grand ballet, on voit apparaître donc c'est un dessin de Toulouse-Lautrec qui représente Chocolat dansant, et Jane Kelly entre dans la silhouette pour danser, et il se met à danser selon, enfin, comme s'il était habité par le danseur chocolat. C'est une façon de rendre hommage, comme Fred Astaire, par exemple, joue dans, je crois, Les Ailes de la Danse ou Swing Times, avec des ombres qui sont des ombres des danseurs de claquettes. Là, il y a souvent ces effets-là, les Africains-Américains n'étant pas en situation de vedette dans les films musicaux, rarement, enfin, ne sont, donc c'est très exceptionnel qu'il y ait cette présence-là. Ou alors, on a donc par exemple Un petit coin de ciel, que Minnelli fait au tout début de sa carrière, où là, il s'agit de traiter de la question des chants noirs américains, du gospel. Enfin, on est dans un autre projet, en fait.
Mmh, ouais. Mais moi, j'étais très, très, très marqué parce que là, en parlant longuement pour la conception du coffret que vous évoquiez tout à l'heure avec Quincy Jones, donc, il me racontait que donc, il a grandi à Seattle et il rêvait vraiment de films, de cinéma, parce qu'il voyait à peu près 5, 6, 7 films par semaine. Il faisait l'école buissonnière et il était fasciné par tous les genres. Du film noir, de la comédie musicale, des films fantastiques, Universal Pictures, etc. Il rêvait d'écrire pour le cinéma et il m'a dit, je lui dis, mais comment ça s'est fait? Il me dit, j'ai mis beaucoup de temps à y arriver parce que tous les compositeurs à l'époque d'Hollywood, pour tous les genres musicaux, pas uniquement au-delà de la comédie musicale, étaient des compositeurs plutôt donc américains ou des exilés d'origine d'Europe centrale. Il dit, mais moi j'étais noir, j'avais pas mes chances et je me disais, mais je n'arriverais jamais à m'imposer à Hollywood. Et quand il a fait son deuxième film, qui est un polar, qui s'appelle Mirage, réalisé par Dmitri, qui est un film Universal Pictures. Et Universal Pictures, c'est le studio le plus conservateur. Donc le patron de la musique à Universal Pictures le convoque et découvre qu'il est noir. Et il lui dit, bon, écoutez, on va vous rappeler. Et comme ça, et Quincy Jones lui a dit, j'ai senti qu'il se rendait compte qu'il y avait un problème. Donc, Quincy Jones appelle Henry Mancini, qui est un peu son gourou et mentor. Il dit à Mancini, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on va pas faire le film. Et Mancini lui dit, écoute, il m'a rappelé en me disant que finalement, il n'y avait pas de gospel dans le film, on n'avait pas besoin de blues, il n'y avait personne dans un champ de coton, donc il fallait un compositeur blanc, c'était un polar psychologique, ça pouvait pas être toi. Et Mancini est monté au créneau et a dit au patron de la musique Universal, écoutez, on est au 20e siècle, je vous en prie, c'est pas parce qu'il est noir, soyez comme un minimum progressiste. Et Quincy Jones a fait le film qui a très très bien marché, et il a fait son premier film musical avec The Wiz, comme on le disait tout à l'heure. Mais il y a quand même une espèce de, c'est pareil, hallucinant, le combat qu'il a fallu mener, c'est l'histoire d'une émancipation en quelque sorte, pour que des compositeurs noirs puissent accéder et écrire complètement la musique d'un film de major hollywoodienne.
Là, on parlait de Sidney Lumet, justement, pour The Wiz. On a le sentiment que tous les grands réalisateurs, quelque part, signent leur comédie musicale. Enfin, il n'y a peut-être pas Kubrick, mais regardez jusqu'à Léos Carax, dont on apprend qu'il veut tourner un opéra rock l'an prochain. Woody Allen, qui a tourné une comédie musicale, même Alain René. On connaît la chanson Phantom of the Paradise de Brian De Palma, enfin tous ceux du Nouvel Hollywood. Vous diriez pas que c'est un genre obligé quelque part dans une filmographie?
Ça dépend, parce que la comédie musicale implique en partie la danse aussi. Comment dire, on connaît la chanson, n'est pas complètement chorégraphique.
c'est vrai,
mais c'est
un film musical.
Ce sont des films, oui. C'est vrai que la comédie musicale correspond, je vais pas dire ça devant Sylvie, mais à des codes précis avec des passages parlés, chantés, dansés. Etc.
J'aurais adoré voir une comédie musicale de Kubrick.
Vous voulez dire que vous auriez aimé qu'il fasse, mettons, je sais pas, Barry Lyndon ou Eyes Wide Shut en comédie musicale?
C'est presque une comédie musicale, Barry Lyndon. Mais sérieusement, est-ce que c'est un peu aujourd'hui, Sophie disait quand même, Léos Carax, comédie musicale, je crois que même Bruno Dumont est en train de préparer un film musical.
Un film musical, lui aussi.
Sur l'enfance de Jeanne d'Arc. Donc, est-ce que, justement, aujourd'hui, tout le monde a envie de faire de la comédie musicale?
Est-ce que c'est pas justement parce que la comédie musicale, par ses codes, autorise tous les possibles? Dans notre fameux La La Land, on a à un moment donné, effectivement, l'observatoire de Griffith, et on voit les personnages s'envoler. Il danse dans le ciel, enfin, cette espèce d'élévation, ça va jusque-là, et on accepte, nous, spectateurs, on part dans cet onirisme. Or, quel réalisateur n'a pas envie de se donner tous les moyens du cinéma pour raconter des histoires, par finalement aussi en abandonnant presque les dialogues pour partager une émotion par les images et par les perceptions? Je pense que tous les réalisateurs en rêvent, et si à un moment donné, on leur offre la possibilité de faire une comédie musicale, ben, ils la saisissent au vol. Il me semble que ça a à voir peut-être avec ce rêve aussi, car il le disait aussi, Chazelle, que c'était son propre rêve dont il parlait dans ce film. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes.
A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition,
oh God, help us all.
You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know. The one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go. If you're the someone ready to be friends, the someone ready to do what you need to do. Finally discover you and make you more than who you see.
Notre émission s'achève en chanson sur ce titre de La La Land, Someone in the Crowd. Merci Sylvie Chalaï et Stéphane Lerouge. Je rappelle le livre de Sylvie Chalaï consacré à la comédie musicale, publié en 2008 aux presses universitaires de Rennes, et la sortie d'un coffret de 6 albums consacrés au travail de Quincy Jones pour le cinéma, un coffret que l'on doit à Stéphane Lerouge. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour parler de la vague de films écrits, joués, réalisés par des Afro-Américains à Hollywood. D'ici là, bonne semaine à tous.